Donc Romains, chapitre 14, c'est un passage qui commence par dire de discutez pas les opinions, mais c'est un passage qui a déjà provoqué pas mal de discussions. Alors voilà, et Romains chapitre 14, nous ne traiterons pas tout ce qu'il y a là-dedans. Et puis nous reviendrons dessus la semaine prochaine, et puis certainement, parce que là, même le chapitre 15 continue dans le même sujet. Donc, mais comment vivre cette vie chrétienne entre nous, hein? Nous sommes la question ici, c'est s'il y a des faibles, il y a des forts dans l'Église, et puis c'est pas tous ceux qui se pensent forts qui sont forts, et c'est pas ceux qui sont faibles qui sont forcément les plus faibles, hein, mais voilà, certainement que ceux qui sont honnêtes vont se considérer faibles, hein. Mais déjà notre comportement, nous sommes tous à des degrés différents dans notre vie, et en même temps nous avons une vie de communauté dans l'Église. Donc nous voulons voir quelques principes que nous voulons voir dans notre Église, puisque c'est ce que le Seigneur veut pour son Église. Donc le titre de cette étude, c'est les premiers mots du chapitre, accueillez celui qui est faible. Accueillez celui qui est faible. Je commence la lecture, nous allons lire aujourd'hui jusqu'au verset 12. Donc Romains 14, verset 1. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, comme j'ai déjà suggéré, hein, il y a dans l'Église, en fait, il y a trois catégories de chrétiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, il nous parle des chrétiens charnels. Et ici, il nous parle des forts. Hein, vous voyez ça au chapitre 15, verset 1, il nous dit « nous qui sommes forts ». Hein, donc, il parle des forts. Et puis, il parle des faibles, dans notre chapitre 14. Ils sont tous chrétiens. Ils sont tous sauvés parce qu'ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs devant Dieu et ils ont cru que Christ est mort sur la croix pour les sauver. Hein, donc, il suffit de cela. Hein, à partir du moment que une personne a pris conscience du fait qu'elle est devant Dieu, elle est considérée comme étant pécheresse et elle reconnaît que Jésus-Christ est mort sur la croix pour se régler ce problème, et bien à partir du moment qu'elle demande à Dieu et dit « Dieu, je veux que tu interviennes dans cette situation et que tu me sauves », et bien on est enfant de Dieu. Hein. Après, nous arrivons à, donc à la première catégorie des chrétiens charnels. Ben, ce sont ceux qui ont reçu le Seigneur, mais qui vivent encore sous l'influence de certains désirs et de passions de la vie passée, et ils ne sont pas complètement délivrés, au point qu'on a plus l'impression qu'ils vivent selon les passions de la vie que selon ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Mais ils sont sauvés, hein. Un chrétien charnel, c'est un chrétien d'abord. Hein, donc, nous devons nous souvenir. Il n'est pas toujours heureux, hein, chrétien charnel, mais il est sauvé. Et il le sait aussi. Ces deux autres catégories, c'est ceux dont il va traiter ici, dans ces chapitres 15, 14 et 15, et il nous parle de ceux qui sont donc faibles, et il nous parle du fort. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est, mais quelle est la différence entre un faible et un fort? Qu'est-ce qu'un chrétien faible et qu'est-ce qu'un chrétien fort? Vous regardez déjà dans le chapitre, le verset 1, hein, il dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi ». Je parle de celui qui est faible dans la foi. Il ne parle pas d'une faiblesse physique ni d'une faiblesse de notre nature. C'est au niveau de la foi qu'il est faible. Et là, parce que, vu là où il est, hein, peut-être d'où il sort, de comment ses origines, ce qu'il a vécu, toutes sortes de choses, eh bien, il peut avoir des idées. Et ça peut provoquer des discussions, mais en fait, l'apôtre Paul nous dit, ne discutez pas de ces choses. Hein, on n'est pas là pour décider qui a raison, qui a tort, c'est une question de... D'abord, souvenons-nous que nous sommes des frères et sœurs en Christ. Et il prend deux exemples, il parle de celui qui dit non, ne pas manger de viande, parce que, bon, comme il nous dit dans 1 Corinthiens, il y avait un problème, les viandes étaient d'abord sacrifiées à des idoles, et ensuite mises sur l'étalage, et donc certains étaient gênés par cela. Et d'autres, donc, ils ne mangeaient que des légumes. Et d'autres disent non. Peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent, ce qu'ils peuvent faire comme incantation dessus, la viande, c'est de la viande. Elle n'est pas affectée, moi, il n'y a pas de problème, je mange. Voilà. Et puis après, il y a le problème des fêtes, des jours. Là, il dit, non, ça c'est une fête païenne, ce jour-là, moi, j'en profite pas. Et puis l'autre, il dit, ah non, ça c'est une fête, cette origine, et puis moi je suis du judaïsme, on avait ces fêtes-là, donc je vais les garder. L'autre, il dit, mais nous, on n'est plus sous le judaïsme, on n'a pas besoin de ces fêtes-là. Et alors, il peut y avoir des discussions. Et chacun a un peu tort, et chacun a un peu raison. Hein. Mais il peut y avoir des discussions entre frères. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement est-ce qu'il faut manger ou pas manger, ou est-ce qu'on peut faire des fêtes ou pas les fêtes. La question, c'est de comment se comporter dans des situations pareilles. C'est ça qui nous intéresse ce matin. Et regardons un peu ce que l'apôtre Paul met en valeur. D'abord, vous avez remarqué qu'il ne condamne personne. Hein? Voyons les qualités qu'il prend le faible et puis il présente ses qualités. Et finalement, le fort, il n'a pas de meilleures qualités que le faible. Regardez d'abord les versets 3 et 4. Verset 3 et 4, il dit que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Et il continue au verset, à la fin du verset, donc, « Qui es-tu, toi, qui juge son serviteur d'autrui ?» Verset 4, « S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Donc il dit, tu regardes le faible, tu regardes le fort, il y a une chose qu'ils ont en commun, c'est que Dieu l'a accueilli. C'est déjà pas mal, hein, c'est merveilleux, ça c'est une grâce. Dieu l'a accueilli. Alors toi, qu'est-ce que tu as à dire? Dieu le reçoit, Dieu l'accepte. Alors, pourquoi est-ce que tu le juges? Pourquoi est-ce que tu le rabaisses? Pourquoi est-ce que tu le diminues? Pourquoi est-ce que tu le condamnerais ou tu le chasserais même? Parce que ça arrive malheureusement. Il dit, et puis, et c'est pas un problème s'il est faible. Et alors? C'est le Seigneur qui s'occupe de lui, hein. C'est le Seigneur qui le garde, c'est le Seigneur qui l'affermit, c'est le Seigneur qui le tiendra debout. C'est lui qui fait tout, tu n'as rien. Comment est-ce que le Seigneur nous a accueillis? Eh bien, il nous dit dans Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Dieu lui a donné ce qu'il t'a donné. Donc, où est la différence? Et en plus, il dit, lorsque le Seigneur reçoit quelqu'un, eh bien, il le prend en charge. Il devient sa responsabilité. Hein, c'est pas nous qui essayons de pénétrer dans la communauté du Seigneur et puis on essaie de rester là-dedans et se maintenir là-dedans et comme si c'était pas notre place. Non, non. C'est lui qui nous accueille et c'est lui qui nous garde. Il nous dit, l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 1, verset 6, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il dit, il t'accueille et il commence à travailler dans ta vie. Comme certains ont dit, hein, je suis un chantier du Seigneur. Et il est à l'œuvre. Maintenant, il y a des chantiers qui vont plus vite que d'autres. Il y a que le Seigneur qui sait, connaît la nature du chantier. Hein, et pour certains d'entre nous, hein, il a un chantier. Mais, il est dit, c'est lui qui s'en occupe. Toi, tout ce que tu as à savoir, c'est que le Seigneur l'a reçu. Il est enfant de Dieu. Il est né dans la famille. Hein? C'était mon cas, j'étais l'aîné. Mais après ça, chaque fois, c'est pas moi qui devais me prononcer sur est-ce qu'on accepte le prochain là qui arrive ou pas. Hein? Oui, il est pas. Ah, c'est une fille, laisse tomber. On peut avoir comme sentiment quand on est un petit garçon. Et puis c'est pas intéressant, il fait rien, le petit frère, il fait que dormir et tout ça, et c'est pas amusant. Moi je croyais que j'allais avoir un frère qui. Il a toutes sortes d'opinions. Il dit, mais ça n'a rien à faire. Il a été reçu dans ma famille, on le garde dans la famille, et tu en fais ton frère. Et même s'il est handicapé, physiquement ou autrement, c'est ton frère, tu le reçois. On l'a reçu dans la famille, et on aide chaque frère à se développer du mieux possible. Hein, on fait tout pour qu'il arrive à son potentiel. Et c'est ça l'esprit qu'on veut dans une famille, c'est ça la vie de famille, c'est où on travaille tous pour que chacun arrive au maximum de son potentiel. Et bien dans la famille de Dieu, c'est exactement pareil aussi. Qu'il soit faible ou qu'il soit fort, et c'est pas ton problème. Ce que c'est que on travaille avec chacun. Dis-le, Dieu l'a reçu, donc il est dans la famille. Maintenant, la famille l'entoure. C'est la première pensée. Hein. Des fois, parce qu'on a tellement l'habitude comment les choses se passent dans la vie, il y a les partis politiques et tous ceux qui ne sont pas d'accord, on les met dehors. Il y a des élections qui arrivent, on critique tout ce qui est chez l'autre. Non, mais c'est pas ça. C'est pas une politique dans l'Église du Seigneur. Il n'y a pas une concurrence entre nous. Le Seigneur nous a reçus. Eh bien, nous sommes frères et sœurs. Et on cherche le bien de l'un et de l'autre. Peu importe ce que moi je peux considérer comme une faiblesse chez lui et ce qu'il peut voir comme une faiblesse chez moi. Et puis, on ne peut pas évaluer l'efficacité du Seigneur dans cette transformation d'une personne parce que nous, on n'a aucune idée de la profondeur de l'œuvre qu'il fait. Parce que le Seigneur s'intéresse d'abord à une œuvre intérieure. Hein, nous, vous savez, c'est la tendance des êtres humains. On arrive dans une église, elle a son moule Et c'est comme ça, un bon chrétien, c'est comme ça. Et alors, le plus tôt possible que tu rentres dans ce moule, le mieux c'est. Hein, c'est ça la pratique. Et c'est la tendance, et c'est très humain. Et justement, c'est là le problème. Hein. Pourquoi nous, on veut faire quelque chose de spirituel. Donc, il n'y a pas de moule. Le Seigneur commence à œuvrer chez chacun, et il fait une œuvre en profondeur, il prend le temps qu'il lui faut, il fait le chantier, et nous, on est là pour constater l'œuvre de Dieu. Et on l'encourage. Donc, exerçant la patience, croyant que le Seigneur fera son œuvre, et il maintiendra ce frère. Et l'apôtre Paul dit, il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc, il se tiendra debout. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Hein? Donc, aidons-le, encourageons-le. Et c'est sûr que dans un bon contexte de famille, on s'épanouit beaucoup mieux que dans un contexte où ça tire dans tous les sens. Et donc, premièrement, il dit, c'est pas une question de manger ou pas manger, ou de faire les fêtes ou de pas célébrer les fêtes. C'est une question de recevoir ton frère que Dieu a accueilli. Ensuite, au verset 6, il dit une autre qualité. Hein, donc, c'est remarqué, il dit, l'un et l'autre rendent grâce à Dieu. Hein, verset 6, celui qui distingue entre les jours, agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. L'un et l'autre rend grâce à Dieu. Et c'est ce que nous voulons. Hein, qu'avons-nous à reprocher à qui que ce soit qui soit rempli de gratitude, qu'il soit faible ou fort, peu importe, il rend grâce à Dieu pour ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Tous les deux rendent grâce à Dieu pour ce qu'il mange ou ce qu'il ne mange pas. Paul répond à une discussion qu'il y a eu dans l'église de Corinthe, et il dit ceci en 1 Corinthiens 10, verset 30, il dit, « Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce ? Si je fais avec action de grâce, si je remercie Dieu, eh bien, voilà. Il dit, c'est tout ce qui t'intéresse. C'est pas une question, il doit le manger, il ne doit pas le manger. Si il remercie Dieu, c'est avec action de grâce. Et dans Colossiens 3, 17, il nous dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Il dit, si tu peux rendre grâce à Dieu pour la chose, écoute, c'est très bien. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est important que ce soit vraiment pas seulement une habitude, mais vraiment un sentiment de constamment remercier Dieu pour toutes choses. Certains le font plus que d'autres. Hein, certains remercient Dieu pour le moindre détail, d'autres remercient Dieu pour peu importe. Mais remercie Dieu. Rends grâce à Dieu. Et dit, ce frère faible, le frère fort, tous les deux rendent grâce à Dieu. Eh bien, très bien, continuons. Versets 7 et 8 nous dit, en effet, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous mourrons pour le Seigneur. Et nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc, que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Il dit, et ensuite, que ce soit le fort, que ce soit le faible, et peu importe qui pense qui est le faible, qui est le fort, il dit que ce soit pour le Seigneur. Hein, c'est celui qui se prive, il dit, mais c'est parce que j'aime le Seigneur. Celui qui le prend, il dit, c'est parce que j'aime le Seigneur. Eh bien, si c'est pour le Seigneur, c'est très bien. Ce n'est pas ce qu'il se permet ou ce qu'il ne se permet pas, mais c'est pour qui il le fait qui importe. L'un se prive peut-être au nom de la pureté. Tu veux être pur pour le Seigneur, ça je ne touche pas. Ça a été. Il y a des gens qui ont touché, ça a été, c'est des gens qui ne sont pas bien qui ont fait ça. Ce médecin, il bricole avec des autres choses. On peut avoir toutes sortes de choses et quelqu'un dit, moi je ne touche pas parce que ça, c'est, ça va être infecté par. Et puis un autre dit, moi c'est pour le Seigneur que je fais et c'est lui qui purifie tout par l'action de grâce. Et donc. La vraie question est, le fait-il pour la gloire de Dieu et non pour la sienne, ou pour satisfaire une passion personnelle, hein, parfois, il y en a qui évoquent la liberté chrétienne, mais c'est pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu ne le fais pas pour le Seigneur, tu le fais parce que toi, tu veux ça. Et donc, tu dis, où est le péché, où est le mal, hein. Oui, mais c'est quand même pour satisfaire un désir personnel. Là, ça c'est un autre problème. Et puis celui qui se prive et tout ça, c'est pour paraître un peu plus spirituel que l'autre, ça aussi c'est mauvais. Hein, c'est pas l'intention. C'est tout pour le Seigneur, à la gloire du Seigneur. C'est pas une question de ce que j'ai envie de faire, ni comment je veux paraître. Hein, et donc là, si, en fait, il n'y a que moi, hein, qui peux savoir, hein, si ce que je fais est correct ou pas. Deux personnes peuvent faire la même chose, l'un c'est mal et l'autre c'est bien. Et ils sont en train de faire la même chose. Pourquoi ? Parce que l'un fait pour lui-même et l'autre le fait pour le Seigneur. On peut prier dans la chair comme on peut prier par l'esprit. Les paroles sont les mêmes. Ah, les deux, mais il se peut que celui qui prie dans la chair parce qu'il a un peu de talent, eh ben, elle est plus belle. Mais elle ne va pas plus loin que le plafond. Et tandis que l'autre, c'est tout simple et tout ordinaire, mais c'est vraiment... Pour le Seigneur, c'est autre chose. Hein, je peux le dire en tant que pasteur, mais une prédication, je peux la faire dans la chair et je peux la faire par l'esprit. Et vous, forcément, vous ne pouvez pas forcément le savoir quand c'est l'un ou l'autre. C'est moi qui dois constamment réévaluer mon état. Parce que si je suis en train de le faire par... Je pourrais facilement mettre une prédication en place avec plus de 40 ans d'expérience, on arrive à dire des choses, hein. Mais ça sort de la tête. Et puis après, nous, d'un autre côté, eh bien, on le fait par le Seigneur. Et donc, c'est très important. C'est pas tellement qu'est-ce que tu penses et ce que tu penses, c'est pour qui tu le fais. Hein. Et ça, c'est très important et pour chacun d'entre nous, et c'est là où nous devons. Dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et c'est ça qui importe. Et c'est ce que le Seigneur note. Je vous mets une petite parenthèse là, gratuite. Hein. Dans 1 Corinthiens 3, il nous parle des œuvres qui... Il y a ce qui est or, argent et pierre précieuse, et puis il y a d'autres œuvres qui sont du bois, du foin et du chaume. Et il parle de service. Hein. Ce n'est pas le fait de pécher, c'est du service de Dieu, mais du service qui est du bois, du foin et du chaume qui sera consumé par le feu. Et puis de l'autre côté, c'est du service pour le Seigneur qui compte pour de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Et la différence, c'est pour qui tu l'as fait. Si tu l'as fait par la chair ou si tu l'as fait par l'esprit, c'est tout. Hein. Mais l'œuvre peut être se ressembler. Hein, donc, c'est là qui est important. Et donc, il dit, ne t'occupe pas de est-ce qu'il est faible ou est-ce qu'il est fort, est-ce que toi tu es fort ou est-ce que lui c'est un faible. Peu importe ce que tu penses, pour qui est-ce que c'est fait, hein. Et alors, comment... Puis, là, c'est des points qui sont semblables. Et donc, comment se comporter dans cette situation pour éviter qu'il y ait des ennuis, hein, parce que surtout pas, on ne veut pas, dans une église, on ne veut pas avoir des activités qui divisent. Hein, c'est, on est, le Seigneur a tout fait, a mis en place pour rapprocher, pour faire une, créer une communion, et ce n'est pas à nous de défaire le travail du Seigneur. Surtout pour, comme on dit, des broutilles. Hein. Donc, au chapitre 14, verset 1, hein, il nous dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi ». Donc, peut-être qu'il est faible dans la foi, c'est-à-dire il a la foi, il a cru, mais après la foi elle augmente, la foi se développe, et la foi ça vient, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Donc au fur et à mesure d'un enseignement, d'un bon enseignement de la parole, hein, pas l'enseignement de la position de l'Église, mais l'enseignement de la parole, et eh bien là au fur et à mesure qu'il comprend la pensée de Dieu, il comprend, et eh bien les choses, peut-être, il y aura des changements peut-être. Hein, j'ai discuté au téléphone avec un frère, et puis Jésus avait évoqué la situation de David lorsqu'il a mangé des pains de proposition. Hein, c'est du pain qui était réservé aux prêtres. Et mais lui, il mourait de faim. Et le prêtre lui a dit, écoute, tiens, mange. Et le Seigneur a approuvé. C'était contre les règles, mais c'était. Le plus important, c'est sauver la vie. C'est pas garder les règles, c'est sauver une vie. Hein? Et nous devons avoir ça. Nous, et bien sûr qu'on a nos petites. Même les évangéliques, ils ont leurs petites traditions. Hein? Et ils ont leurs petits trucs. Puis chaque petit mouvement, il a son petit truc. Hein? Ça, c'est sûr, c'est carré. C'est pour ça qu'on arrive à se distinguer, on se reconnaît même. Parfois, il suffit d'écouter comment une personne prie, on sait de quel milieu il sort. Mais la question, c'est est-ce que je suis en train de préserver une vie que Jésus a achetée à un grand prix, ou est-ce que je suis en train de malmener quelqu'un que lui a accueilli, hein, c'est ça qui importe. Et c'est toute une autre attitude. Bien sûr, écoutez, on a tous tort quelque part. Hein? Et on est tous, comme je dis souvent, on est tous tordus, mais différemment. Donc, soyons patients l'un avec l'autre. Hein? Il n'y a que Jésus qui est ce qu'il doit être. Et autrement, ben, on a tous besoin d'un certain travail, et le Saint-Esprit, il s'occupe de cela. Et maintenant, c'est à nous de ou lui rendre la tâche difficile ou la rendre plus facile. Il dit, donc, il nous dit ici dans le verset 1, il dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi, ne discutez pas les opinions. » Ne discutez pas les opinions. Ah, c'est dur pour des Français. Hein. On en a. Hein, on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur un fromage, un bon fromage. Alors encore moins sur d'autres opinions. Hein. J'ai trouvé une citation. Il dit « Les hommes dont les opinions se sont formées par la seule force de leur pensée et qui s'y sont attachés sans avoir égard aux résultats sont toujours doués d'une grande force de caractère. » C'est à partir du moment que moi j'ai sorti de ma tête, eh bien c'est bon. Et je suis convaincu et je maintiens. Ben ça c'est un peu humain. Mais dans le corps de Christ, qu'est-ce que dit la Bible ? Qu'est-ce que dit la Bible ? Et puis après, il y a des passages clairs, il y a des passages pas clairs. Quand c'est un passage clair, eh bien c'est clair. Et quand c'est pas clair, eh bien tu dis qu'on en fait du mieux. Hein? Et mon père disait, si tu ne sais pas quelle interprétation prendre, prends celle qui glorifie le Seigneur le plus. Au moins, on ne te reprochera pas ça. Hein, tu as cherché la gloire de Dieu. Même si tu te trompes. Et je suis sûr qu'on arrivera dans le ciel et on aura tous à corriger la copie. Hein. Mais pour l'instant, eh bien, soyons patients les uns avec les autres et nous encourageons les uns les autres. Et Paul a dit à Timothée, le jeune pasteur, il a dit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Et après, ça crée des clochers. Et puis, les clochers, ça ne manque pas de nos jours. Hein. Le mot discuter, là, il ne discutait pas les opinions. Le mot discuter, bien sûr, on a notre idée en français, hein, ce que veut dire discuter. Mais j'étais curieux de voir ce que ça voulait dire dans le grec. Hein. Et ça peut avoir aussi le sens de discerner. C'est-à-dire, c'est pas discuter pour parler, mais c'est discuter pour pouvoir... Le but, c'est d'essayer de comprendre. Hein. C'est ce qu'il... C'est le même mot, on le retrouve traduit par discerner dans ce verset de Philippiens 3,15, nous dit « Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. » Voilà. Dieu, hein, si vous êtes d'un autre avis, eh bien, c'est lui qui éclairera. Hein. C'est pas, on ne va pas se disputer, on ne va pas se séparer, on ne va pas... Écoute, j'ai un avis, tu as un avis, et puis on continue avec le Seigneur. Hein. Et puis après, il se peut que tous les deux changent. Hein. C'est pas toujours une question de se retrouver au milieu. C'est une question de chercher la vérité et de voir hein, et harmoniser le tout avec le reste de la pensée de Dieu. Ne prenons pas le risque de se priver de la communion d'un frère ou de le détruire pour une question de nourriture ou de fête, hein, parfois. Et c'est dur pour nous en tant qu'humains comme ça. Je ne suis pas d'accord avec lui. Et alors ? Ben, je ne suis pas d'accord. Ben écoute, ben, c'est pas de problème. Mais est-ce qu'il aime le Seigneur ? Ben oui. Ben alors ? Est-ce qu'il loue et est-ce qu'il rend grâce au Seigneur ? Ben oui, il rend grâce au Seigneur. Est-ce qu'il cherche, il lit la parole, il cherche à comprendre la pensée du Seigneur ? Oui. Eh ben alors, prie pour lui. Et continue, c'est tout, hein, c'est parce qu'on ne l'a pas pratiqué, pourtant c'est marqué là depuis longtemps, hein. Mais c'est parce qu'on ne l'a pas pratiqué qu'on a des problèmes qu'on a. Et j'ai commis la faute aussi, hein, donc, mais que le Seigneur nous aide. Hein. Il dit, donc ne discute pas les opinions, on peut les partager, puis après, voilà, on constate, on continue. On peut s'entraider. Hein, je consulte avec beaucoup. Hein, et beaucoup de mes amis sont des livres. Hein, ils sont déjà morts, mais par leurs livres, j'arrive à les consulter. Voir leurs pensées, ça aide à comprendre. Hein, on est là, on est toujours prêt à apprendre. Et ensuite, il dit ne discute pas. Et il dit accueillez celui qui est faible. Accueillez celui qui est faible. Et c'est intéressant. Parce que le verbe accueillir ici a le sens de s'en faire un ami. C'est-à-dire accueillir, c'est... Et Paul utilise ce même verset dans le chapitre 15 et au verset 7. Il dit, c'est le même mot, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Il dit, accueille-le, hein, celui avec qui tu n'es pas d'accord, tu crois qu'il se trompe. Accueille-le comme Christ t'a accueilli. Ben, Christ m'a accueilli, il a fait de moi un frère. Il m'a mis dans la famille. Il m'a fait de moi son héritier. Il n'a pas honte de moi. Même avec mes défauts, avec mes chutes et mes rechutes, il n'a pas honte de moi. Il évoque mon nom devant le Père régulièrement. C'est comme ça qu'il m'a accueilli. Il dit, accueille-le. Celui que tu considères comme faible, qu'il soit faible ou pas, ce n'est pas la question. Si tu, dans ton esprit, tu considères qu'il est un peu faible dans la foi et qu'il n'a pas tout compris comme il faut et qu'il fait des erreurs, écoute, accueille-le comme un frère. Il dit, lorsque, chapitre 14, et on l'a vu au verset 3, il nous dit, Dieu l'a accueilli. Alors, t'es mieux que lui ? Lui l'a accueilli. Alors, toi, pourquoi tu te poses la question ? Est-ce que tu peux le recevoir ou pas ? Ah Après, bon, c'est sûr que une des raisons pour lesquelles on a différents clochers, on a différentes manières, mouvements, c'est parfois si les opinions différentes, parfois ça fait rend difficile de travailler ensemble. C'est une chose qu'on ne fait que quand on prie ensemble et on prend un repas ensemble, c'est une chose, mais quand il faut travailler dans l'œuvre du Seigneur et tout ça, parfois ça peut, des opinions différentes, ça peut rendre la tâche un peu difficile. Alors, comme Paul et Barnabas, ils se sont séparés parce qu'il y avait un petit différent, non pas qu'ils n'aimaient pas le Seigneur, mais leur manière de faire. L'apôtre Paul, lui, à l'époque, il est encore nouveau dans la foi, et il dit non, Jean-Marc, il nous a lâché une fois, c'est terminé, je ne le reprends plus. Et Barnabas, il dit, soyons patients avec lui, persévérons avec lui, je le reprends. Il dit, ah bon, alors, écoute, je ne suis pas d'accord, moi je ne peux pas. Paul, il va de son côté, et Barnabas, il va de son. Paul prend Silas, ou Sylvain, et puis Barnabas, il prend Marc, Jean-Marc. Le Seigneur fait une œuvre chez Jean-Marc. Plus tard, l'apôtre Paul écrira dans une épître, il dit « Envoie-moi Marc, parce qu'il m'est utile. » C'est comme ça, ça arrive, c'est toujours arrivé. Soyons patients les uns avec les autres. Ce qui est important, c'est d'être conscient de la tendance et du problème et faisons du mieux. Mais cherchons surtout à maintenir la communion fraternelle. Et puis prions pour lui que sa foi soit affermie. Si tu trouves qu'il est faible dans la foi, eh bien prie que lui, dans sa foi, il se développe, il mature et puis qu'il comprenne. Et puis toi, peut-être aussi, tu as besoin d'un peu. Tu es faible dans la foi, tu ne le sais pas encore, et tu as besoin de voir les choses un peu autrement. Et Dieu pourra faire une plus belle œuvre. Et en fait, si nous respectons cette manière de travailler, eh bien, nous aurons quelque chose qui pourrait attirer du monde. Parce que quand les gens viennent d'un monde où tout le monde tire de son côté, et même dans une famille, des gens qui s'aiment, ils se tirent les cheveux, comme on dit, et il arrive quelque part où là, on s'entend, eh bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Le faible n'est pas faible parce qu'il vit sous le pouvoir du péché, ça c'était clair, mais parce que sa foi n'est pas pleinement affermie sur tous les mêmes points. Nous devons exercer de la patience avec ce frère et chercher ce qui l'édifiera dans sa foi. Et là, vraiment, je ne traite pas tout ce qu'il y a là-dedans parce qu'à la suite du chapitre, il y a tellement de choses et nous allons continuer à développer cela. Donc, gardons ces pensées. Et puis on continuera la prochaine fois. Mais c'est surtout une attitude à avoir. Donc finalement, on n'est pas là pour marquer les faibles. Vous êtes l'équipe rouge et les forts, vous êtes l'équipe bleue. Et puis on continue comme ça. Ce n'est pas ça dans l'Église de Jésus-Christ. On a tous... On dit, le Seigneur m'a reçu par grâce. Normalement, moi, je ne devrais pas être là. Je ne suis pas digne d'être là. Mais le Seigneur, Dieu, m'a accueilli. Il m'a reçu. Il m'a fait de lui son enfant. Et même, il me prépare une place pour que j'habite avec lui. Il dit, accueillez-le. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur accueille des pécheurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'accueillerait pas des frères ? Nous allons prendre quelques instants de réflexion, de prière. Peut-être que vous dites, Seigneur, aide-moi dans ce domaine. Peut-être je pense à quelqu'un que j'ai été dur avec lui. Et je te demande pardon déjà, parce que toi, tu as payé le même prix pour lui que pour moi. Et donne-moi de l'aimer comme je dois l'aimer et d'être patient avec lui. Et qu'il soit patient avec moi et qu'on puisse s'encourager mutuellement. Que le Seigneur nous aide. Je vais un moment de silence que chacun peut prier et ensuite je terminerai par la prière.
Seigneur, il n'y en a pas un ici qui peut enseigner l'autre sur ce sujet. Nous avons tous commis nos fautes. Et ce n'est pas une question de tolérer n'importe quoi, mais c'est une question de pouvoir vivre pour toi, de te rendre grâce à toi, une question de pouvoir grandir en toi. Et Seigneur, épidonne-nous de nous accueillir les uns les autres et de faire confiance que celui que tu as accueilli, eh bien, tu peux le fortifier, tu peux l'affermir. Seigneur, c'est une question de foi pour celui qui se croit fort, de croire que toi, tu peux achever ton œuvre dans la vie de celui que je considère comme faible. Et Seigneur, aide-nous à penser comme tu penses et que notre Église puisse être un reflet de ta pensée. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes là tous défectueux, chacun dans son domaine. Pour les uns, c'est plus voyant que pour d'autres, peut-être, mais toi, tu vois tout. Seigneur, merci de nous avoir accueillis. Merci d'être mort sur la croix pour nos péchés. Merci de nous avoir reçus dans le corps de Christ. Merci de nous avoir préparé une place afin que là où tu es, nous soyons aussi. Et Seigneur, donne-nous de nous encourager mutuellement, de vivre ensemble. Et tout cela à la gloire de ton nom. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons adressé la parole, Père. Amen.